avec Sandra Freeman.
Iskor, souviens-toi en hébreu. Un impératif, une faiblesse, une force. Depuis 1948, comment s'est écrit le récit national entre mythe, histoire, mémoire et oubli? Ce soir, avec le romancier Yehoshua Kenaz et avec le réalisateur Emmanuel Finkiel, croisons les regards sur cette société israélienne. C'est à partir de 21h.
France Inter. La différence.
Restez avec nous, c'est l'heure de Là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet.
Il y a ceux qui battent la mesure, il y a ceux qui sifflent aux grands espaces, il y a ceux qui craignent pas la brûlure, il y a ceux qui ont réservé leur place, il y a ceux qui tiennent encore les murs, il y a ceux qui sèment devant la glace, il y a des ruches de mille cultures, il y a ceux qui attendent que ça passe. Il y a des cortèges de slogans, il y a des rues remplies d'utopie, il y a des feux rouges de temps en temps, il y a des vapeurs d'espoir aussi, il y a des points levés au ciel, il y a des ponts entre les hémisphères, du mafé, des cornes de gazelle, je suis français monsieur le commissaire. Il y a des vagues brunes et des ratures, des prédateurs en chasse gardée, comme autant de points de suture d'une histoire mal cicatrisée. Ça sent la merde et l'arrogance, le sang impur dans les sillons. Rechante-moi un jour en France, avant le premier coup de canon. Et quand je prendrai le maquis, vu que la conscience n'est pas pare-balle, je laisserai dans un dernier cri mon identité nationale. Ciao Visa.
Ah mes amis, quelle joie, quelle joie! Je suis heureux que la communauté internationale soutienne si vaillamment M. Ouattara contre son peuple qui ne l'a pas élu et contre le Conseil constitutionnel véreux de son pays qui a ignominieusement validé l'élection de M. Gbagbo. Oui, véreux le Conseil constitutionnel de son pays, uniquement pro-Gbagbo. Je vous le dis, ce genre de choses serait impossible dans une vraie démocratie, comme la France, où le Conseil constitutionnel est composé de 10 membres de droite et un membre de gauche. Ou, comme le Conseil constitutionnel des États-Unis, qui ont courageusement validé les électeurs pipeaux de Californie afin de remettre en selle George W. Bush pour un nouveau mandat de chevauchée fantastique et ainsi fait barrage à l'écoterrorisme de M. Al Gore. Ce M. Ouattara, directeur général adjoint du FMI de 1994 à 1999, va faire du bien aux entreprises européennes qui voudront s'installer en Côte d'Ivoire. Et donc, faire du bien aux Ivoiriens. Il est, n'ayons pas peur des mots, le DSK africain.
Salut à tous les AMG, c'est Émilie de Haute-Loire. C'est pour vous donner le rendez-vous du mois. Le Café Repère du Puy-en-Velay aura lieu demain, jeudi 7 avril, de 20h à 22h, au Café La Map Monde, sur le thème engagement citoyen, deuxième round. On continue le thème du mois dernier, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, et cette fois, ce seront les jeunes qui feront une introduction sur leur façon de voir l'engagement citoyen entre 20 et 30 ans, ou les jeunes un peu plus vieux. À bientôt, ciao!
Bonjour Daniel, et puis bonjour à toute ton équipe, hein, professionnels, des professionnels. Voilà, bon, c'est Jean-Pierre, hein, et je vous appelle concernant l'électricité, puis le gaz aussi, évidemment. Il faudrait quand même qu'on se souvienne en France que M. Jospin avait fait privatiser l'électricité et le gaz. Et depuis ce temps-là, eh ben, l'électricité et le gaz n'arrêtent pas d'augmenter. Donc je ne vais pas vous dire les pourcentages, puisque le gaz est à peu près 60%. Et l'électricité, depuis 2008, nous sommes rendus à 13% environ. Mais ce n'est pas fini pour l'électricité. Car la loi NOM va mettre en concurrence EDF avec les autres centrales, Electrabel, Powo, etc., etc., etc. Et sachez que l'électricité n'a pas fini de monter, puisque comme nous allons donner 20% de la production d'EDF GDF pour les autres entreprises, nous allons être obligés d'augmenter les tarifs d'EDF GDF pour se mettre sur le même tarif que Powo, Powo, Electrabel, etc., etc. Et on appelle ça de la concurrence. Le gars, 60% d'augmentation pour la concurrence, elle est où? Mais non, on continue comme ça. Vive le Parti Socialiste et Lionel Jospin qui ont privatisé EDF et GDF. Allez, quand est-ce que les citoyens vont se réveiller? Quand est-ce? Quand est-ce? Peut-être un jour.
Bonjour à tous. J'aimerais souligner que le gouvernement veut finaliser, privatiser complètement Areva pour qu'il soit coté en bourse en juin. Après cette privatisation, il sera impossible de revenir sur ce fait. L'entretien des centrales nucléaires ne touchera plus le domaine de l'État. Lorsque l'on sait que les dividendes versés aux actionnaires seront toujours plus importantes que la sécurité, notre sécurité à tous, il faut absolument qu'il y ait un référendum populaire pour que soit acceptée cette privatisation. Sinon, après, il ne nous restera plus que nos larmes radioactives pour pleurer. La sécurité ne doit pas être privatisée.
Tokyo, Paris, Paris, Tokyo. Comme là-bas, dans 10 ans, ici, asphyxie. Eddie Merckx a bouffé son vélo. Panne de lumière à Tokyo. Captain Nemo crache sur la lune. Et je toxie dans le couloir qui mène à ton dernier. Tokyo, comme là-bas dans 10 ans, ici, asphyxie, asphyxie, asphyxie.
Alors, le masque à gaz, je l'ai. La combinaison blanche, je l'ai. Les surbottes anti-radiation, je les ai. Les gants, je les ai. Les sous-gants, je les ai. Les surgants, je les ai. La petite pommade pour se laver les mains quand on a dit bonjour aux pauvres. Je l'ai, voilà. Donc vous avez compris, on a tout ce qu'il faut. Et on part pour le Japon. Il n'est pas sûr que les choses soient aussi rigolotes qu'on vous les présente là à l'instant. Mais voilà, on en profite avant de partir. On est très très bien équipés. C'est la première fois en plus de 20 ans de là-bas, si j'y suis, que Radio France prend autant de précautions pour les grands reporters que nous sommes. Et nous remercions cette grande maison. Voilà, on part pour Tokyo, et puis ben, on vous racontera au fur et à mesure ce qu'on voit, ce qu'on rencontre, et nous serons en direct demain, 15h heure française, depuis Tokyo, si tout se passe bien. Pendant ce temps-là, on vous laisse avec Manet, il y a une grande rétrospective Manet au musée d'Orsay, c'est une occasion de revenir, contempler le déjeuner sur l'herbe ensemble, de petites choses sur Manet, regarder des toiles de Velázquez, et vous verrez une certaine parenté par endroit, par moment, et puis les dialogues de Manet avec Zola, quand ils déambulèrent ensemble au Halles. Voilà deux images qui me traversent l'esprit à propos de ce grand peintre. Voilà notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Et là-dessus,
je remets mon masque à gaz.
Bonjour à tous, c'est Jacques de Chalon-sur-Saône. Je me permettais d'envoyer ce message parce que j'étais en train de m'interroger sur ce fait. Est-ce qu'il ne serait pas éventuellement possible de poursuivre pour crime contre l'humanité tous les industriels du nucléaire qui sont en train de détruire ce monde, cette planète, pour des générations présentes et futures? Voilà, bonne journée à tous, au revoir.
Bonjour Daniel, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis assistante sociale scolaire et aujourd'hui je suis en colère. Je suis triste et très en colère, voire véritablement révoltée. Nous, travailleurs sociaux, nous mobilisons le 7 avril, le jeudi 7 avril 2011, pour dire non aux propositions du Conseil supérieur de la fonction publique. Elles ne sont que mépris et régression de notre statut actuel. Concrètement, cela signifie une énorme perte de salaire, perte de 11 000 euros en moins de 10 ans, perte de 35 000 euros sur toute une carrière. Qu'avons-nous donc fait pour mériter d'être autant maltraités, alors que qui prend en charge la protection de l'enfant et de l'adolescent, qui vient en aide aux plus démunis, qui soutient les plus fragiles? Nous demandons, nous, travailleurs sociaux, éducateurs, assistants sociaux, conseillers en économie sociale et familiale, le retrait définitif de ce projet, la reconnaissance de nos études à 3 ans d'études pour des assistants sociaux, 3 ans d'études pour les éducateurs. Nous demandons la revalorisation en catégorie A. Nous demandons à tous, je vous demande à tous et à toutes de nous soutenir dans nos revendications. Nous renversons les rôles, c'est à vous de venir nous aider, de nous soutenir dans cette manifestation à Paris, place d'Italie, à 14h, le jeudi 7 avril. Merci Dominique. Au revoir.
Bonjour à Daniel et à toute l'équipe. Amis du Pays Grand-Villet, deux initiatives cinématographiques et citoyennes à vous signaler. En ce jeudi 7 avril à 20h à l'Agora, projection à l'initiative du PCF, du film Chomsky et compagnie, d'Olivier Hazan et de Daniel Mermet, le premier reportage de la base Si j'y suis à devenir un film. Pourquoi Chomsky? Parce que, je le cite, « le pouvoir ne souhaite pas que les gens comprennent qu'ils peuvent provoquer des changements ». Deuxième date, lundi 11 avril, au cinéma Le Select, à 20h15, projection du très corrosif et ironique « We want sex equality » à l'initiative de Ciné Débat Granville. Ce film britannique de 2005, projeté dans le cadre du festival Pluriel, sera suivi d'un débat « À quand l'égalité homme-femme ?» C'était Yann de Saint-Père.
Attention, aujourd'hui au Café Repère de Nancy, un programme très dangereux. Nucléaire, mon amour, ou pourquoi cet amour presque exclusif en France? Est-ce un mariage forcé? Y a-t-il des atomes crochus? En tout cas, c'est une histoire qui dure, mais pour combien de temps? Venez nombreux nous donner votre avis aujourd'hui, au bar Le Monitor, derrière l'hôpital central à Nancy, à 19h. Eh oui, à Nancy, c'est chaque mois, le 7 à 7h du soir. Débattons-nous. Bon, pas la peine de venir avec votre masque et vos pastilles d'iode. Voilà, on vous attend nombreux. Allez, ciao!
À Ivry-sur-Seine, 150 hommes dont le camp avait brûlé en février, faisant un mort, attendent dans l'angoisse la décision du tribunal de grande instance de Créteil, qui va peut-être les jeter hors du terrain de l'assistance publique, où ils ont actuellement trouvé refuge. Le samedi 9, à partir de 14h, venez les soutenir en participant à une grande fête tzigane qu'ils organisent avec le soutien de la municipalité et des associations de soutien. Il y aura le cirque et l'orchestre romanesque, d'autres chanteurs, d'autres danseurs, des jeux et goûter pour les enfants. On mangera, on boira, et le soir, il y aura la projection d'un film de Tony Gatliff, L'Atchaudrome, sur l'histoire des tziganes. Venez nombreux, c'est au gymnase Joliot-Curie, 21 rue Raspail à Ivry. 21 rue Raspail à Ivry. Merci.
Alors, on voit un monsieur habillé en costume. Enfin, il y en a deux. Il y a une dame, enfin, ils font une dame nue. Ils font un pique-nique. Il y a une autre dame qui cueille de l'herbe.
Ils sont dans de l'herbe.
Enfin, ils sont dans une forêt. La dame nue, elle s'est déshabillée, puis elle avait un panier de fruits.
Avec des cerises.
Mmh. Et il y a un monsieur, on dirait qu'il est russe, parce qu'il a un chapeau comme il est.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Elena Namias. Là-bas, si j'y suis.
Flight number 2, arriving from New York.
On sait pas, mais on devine. À notre avis.
La très chère est tenue, et connaissant mon cœur, elle n'avait gardé que ses bijoux sonores, dont le riche attirail lui donnait l'air vainqueur qu'ont dans leurs jours heureux les esclaves des morts. Quatre vers de Charles Baudelaire et vous. Vous, c'est-à-dire 500 000 images différentes, uniques et nues, qui viennent de naître. 500 000, vous êtes à peu près, et chacun vient de s'inventer sa propre très chère. Chacun a vu la posture, la parure, le soyeux de la peau, le bombé de la lèvre, les tissus, la tiraille, l'opulente, les hasards, la suite de l'histoire, les parfums, la belle offerte esclave de cœur. Chacun son cinéma intime, chacun sa mythologie personnelle, chacun sa lumière, chacun interprète, chacun s'approprie cette matière à réflexion. Pour peu que le mystère soit suffisant, que le mystère soit ouvert, qu'il y ait du non-dit, de l'inachevé, alors du lieu commun naît le rêve unique. Tout ça, pas seulement pour rappeler, bien sûr, que la radiophonie est l'art le plus visuel qui soit, mais aussi à l'heure où nous sommes sous le choc des blocs soumis au binaire, où nous en sommes réduits à nous soumettre à l'indigence des chiffres réduits, réductrice démocratie. Faut-il qu'autant d'intelligence, de cœur, de mémoire, de pensée, de science, de beauté aboutissent à deux chiffres ? Noir, blanc, bloc, camp, perdant, gagnant. Quantité sans qualité. Pour un monarque président. Sans doute, le moins mauvais système, mais encore combien de temps impuissant à représenter, à nous rendre la diversité, la multiplicité, le chatoiement infini des sensibilités mouvantes, contradictoires, hésitantes, irrésolues, nature humaine. Comme si le citoyen devait se ranger, se rogner, se classer, s'aligner. Alors aujourd'hui, éloge de la diversité. Éloge de l'indiscipliné. Aujourd'hui, l'idée est simple. L'idée, c'est que le regard est plus important que la chose regardée, comme le disait Marcel Duchamp. On va déjeuner sur l'herbe, au quai d'Orsay. Ça ressemble un peu à Corset, mais non, c'est dehors, c'est dans la nature, c'est dans les rêveries, dans vos rêveries, parce que l'écoute aussi est plus importante que la chose écoutée.
Elle est bonne ?
Ah oui. C'est froid. Qu'on est bien avec les pieds dans l'eau.
On recule un petit peu là, comme...
Oui. Pour bien regarder un tableau, il faut être prêt si on veut regarder la technique, mais pour bien regarder le tableau, pour le plaisir de le regarder pour lui-même, il vaut mieux être loin. Et encore plus quand il s'agit d'une peinture impressionniste pour que les yeux fassent le mélange des couleurs. Mais ce n'est pas le cas ici.
Moi, je suis venu voir ce tableau parce qu'il est tellement connu que c'est plus pour sa célébrité que pour autre chose, si vous voulez. Alors, voilà.
Je vois des fruits, des gens qui pique-niquent, de l'eau, des messieurs et des dames. Puis c'est tout. Hein.
Rien n'entend autant d'imbécilité qu'un tableau de musée. Je me demande si c'est pas de Flaubert, cette phrase-là. On va lui donner tort parce que ce serait trop facile d'aller traquer l'idiot du musée à Orsay ou ailleurs. Là, c'est à Orsay qu'on va et on va se poster avec Elena Namias devant le célébrissime déjeuner sur l'herbe de Manet. Alors, il y a deux cas, ou bien vous connaissez la peinture, ou bien vous la connaissez pas. Si vous la connaissez, vous allez la voir différemment. Et puis, si vous la connaissez pas, vous allez les découvrir par fragments à travers les yeux des visiteurs de ce musée. Qu'est-ce qu'on peut voir dans une peinture? Eh ben, on peut se voir. Il y a un moment où, entre les intentions du peintre et le regard que nous portons à la peinture, il y a un tel malentendu, il y a une telle distorsion que finalement, nous n'avons plus qu'à nous approprier l'œuvre, l'objet qui est proposé, cette matière à réflexion, à rêverie, à méditation, à introspection que devient la peinture. Et c'est ce fécond malentendu, ce phénomène extraordinaire auquel nous allons assister. Mystère, j'emploie des mots un peu comme ça religieux, tant il est vrai que chez nous, dans nos cultures, au fur et à mesure que la fréquentation des églises diminuait, s'accroissait la fréquentation des musées. Hein ? Les lieux de pèlerinage aujourd'hui, c'est Orsay, c'est le Grand Palais, c'est les grandes expos, c'est des vrais lieux de pèlerinage, et il y a un culte de la culture qui a remplacé c'est un peu simple comme schéma, mais ça fonctionne à peu près, le religieux. Mais ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire qu'il y a du religieux dans la peinture, tout comme il y avait de la, de la peinture dans le religieux. Il y a ce regard muet qui n'ose pas intimider devant les œuvres qui sont alignées le long des murailles, des musées, murailles qui enferment comme ça des beautés intimidantes, des sortes de cimetières de la vie. Et on va voir comment, simplement en donnant la parole à ceux qui passent, on va peut-être retrouver les gestes de ce merveilleux Manet qui voulait aller vite. C'était un homme pressé. Manet était un homme pressé qui voulait peindre du coup, sans préméditation, visible en tout cas, et qui évidemment précédait en ça tous les peintres du geste, de la trace, du provisoire, de l'inachevé, qui allait lui succéder jusqu'à Pablo Picasso. Même si en fait, évidemment, Manet était un grand admirateur, contemplateur du Titien. On va le voir dans ce nu à travers l'éclatante sensualité de la femme qui figure dans ce tableau, et aussi grand admirateur de Velázquez pour cette rapidité souveraine du geste, un peu comme en rêvait d'une autre façon des grands artistes du jazz. Je délire, je dérive, je me laisse complètement aller depuis quelques instants. C'est ça l'idée du jour, c'est cette liberté à l'intérieur et surtout à l'extérieur du cadre où la vie est enfermée.
Bonjour monsieur, vous êtes l'agent de sécurité?
Non, je ne suis pas sécurité, moi. Je ne suis pas un chef, moi je suis un agent de technique.
Vous surveillez les salles?
Oui, ça.
D'ici, vous pouvez me dire ce que vous voyez?
Édouard Manet, le tableau. Le déjeuner sur l'herbe. Là, c'était un tableau qui était refusé au salon des refusés. Ce tableau a été refusé. Et à Manet, c'est ça. C'est tout ce que c'est.
Non, mais sur la toile, vous voyez quoi?
Ah, c'est une dame qui est nue, une femme nue, qui, avec un monsieur Manet. Je ne sais pas qui c'est. Ah, je ne sais pas exactement. Il faut plus partir à un conférencier parce que moi je ne suis pas qualifié pour aller. Mais j'ai un autre travail à la CSS pour la sécurité. Moi. Je ne suis pas là pour parler, madame. Je contrôle les flashs, les appareils photos, les appareils photographiques. Moi, je ne peux pas vous dire plus. Hein. Je contrôle les flashs, madame. Je peux pas...
Les flashs tuent la peinture, mais est-ce que les regards la font vivre? Oui, bien sûr. Sans regard, il n'y a pas d'œuvre. Ce serait un dialogue de sourds. Ça, c'était le gardien, ce qui prouve au passage que c'est pas ceux qui sont les plus anciens dans le lieu qui ont la plus fine compétence. Compétence, docte compétence, bien évidemment. Un regard, cependant, un seul regard de ceux qu'on appelle les conservateurs, les bien-nommés conservateurs. Marie-Pierre Salé vous explique le déjeuner sur l'herbe.
Alors, le déjeuner sur l'herbe a été exposé pour la première fois en 1863 au Salon des Refusés. Ce qui a, à l'époque, beaucoup choqué la critique, beaucoup choqué le public du Second Empire, c'est à la fois, bien sûr, le sujet. C'est une partie carrée, ce sont des étudiants et une prostituée dans la campagne. Aujourd'hui encore, les historiens d'art s'interrogent sur la nature exacte des intentions de l'artiste.
Vous, personnellement, vous l'interprétez comment ?
Je le lis surtout comme une étude du peintre pour situer une figure et des personnages dans un paysage, pour se référer aussi à toute une tradition de la peinture, donc comme une réflexion du peintre sur le nu, sur le réalisme, sur le nu moderne et sur la vie moderne. Il y a des références évidentes à l'œuvre de Titien, du Concert champêtre, et puis également à une œuvre de Raphaël gravée par Marc-Antonio Raimondi qui s'appelle Le Jugement de Paris.
Elle est relativement proche d'un des étudiants,
oui.
Mais elle a les jambes passablement ouvertes. Et donc elle a le pied à côté d'un étudiant, du premier. Oui. Par contre, elle a un pied aussi qui touche l'autre étudiant, donc ils sont en triangle assez près l'un de l'autre.
Mm-hmm.
Et je me demande même si, comment dire, s'il n'a pas directement accès sur ses parties sexuelles à la femme.
Oui.
Qu'est-ce que vous voyez?
Je pense qu'il voyait ce qu'il voulait voir, de toute façon. De très nombreux critiques ont écrit sur le tableau dans leur revue du Salon des Refusés donc de 1863, notamment Chesneau et Thoré, et qui se sont attachés au sujet, comme je vous le disais, qui ont aussi été très, très surpris et étonnés et choqués. Le terme de bizarre a même été employé par Chesneau pour qualifier le style de Manet. Bizarre, oui.
Bizarre, bizarre. Heureusement, voilà, cette conservatrice et notre Elena qui a un regard bien libidineux, cette Elena. Mais c'est vrai que c'est très marrant de penser au nombre de prostituées qui ont posé pour les peintres, les demoiselles d'Avignon. C'était un bordel de Barcelone dans la carrière des Avignon, où Picasso s'est rendu et devant lesquelles il passait tous les jours. Et puis, il y a la fameuse statue de la liberté, la statue. De la liberté, mes enfants. Eh ben oui, on sait qu'il s'agit d'une femme de mauvaise vie que Bartholdi avait trouvée dans un bordel autour de l'école militaire. Mais sans doute que c'est pas les seuls cas. Hein, j'ai pas une érudition formidable en matière d'histoire de l'art, mais c'est sûr qu'on doit partout sur la planète admirer des corps d'hommes et de femmes qui n'étaient que de villes prostituées, que je trouve une belle femme. On continue dans ce musée avec le regard de chacun.
À ce que je vois, eh bien, je vois dans une forêt, je vois une dame à l'horizon, deux couples, il y a deux couples en général, en principe. Ils ont amené leur déjeuner, c'est-à-dire une brioche, des cerises, je ne sais quoi encore. Hein. Vous avez vu à côté, non? Et puis, à l'arrière, il doit y avoir un peu d'eau et il y a une personne qui doit se préparer à prendre un bain. Elle n'a pas l'air d'enlever ses vêtements. Elle est appuyée sur l'herbe ou sur une pierre qui est là. Où je pense qu'elle va prendre un bain. Voilà ce que je vois. Et vous, qu'est-ce que vous avez vu?
Eh bien moi, j'ai vu deux hommes et une femme assis au milieu d'une clairière, dans les bois, avec effectivement la dame qui met sa main dans l'eau, plus loin.
Parce que ça s'appelle le déjeuner sur l'herbe, mais avant, ça s'appelait le bain, hein, ce tableau-là.
Et il y a une femme qui est nue, à côté des deux hommes habillés.
Oui, oui, bien sûr. Elle a dû le prendre, son bain, elle sèche.
Et je me demandais qui ils étaient. Est-ce que ce sont des amants?
Pas forcément. Parce qu'au fond, ils ne se regardent pas comme des amants. Il y en a deux, d'ailleurs, qui regardent le public. Là, hein, et l'autre discute, et il ne fait pas du tout attention à la femme nue. Et il ne fait pas non plus attention à celle qui va se déshabiller.
Et à votre avis, c'est qui ces gens?
Ah ben, c'est des promeneurs, peut-être dans une propriété, parce qu'il y a un bateau, hein, vous voyez, là, ils sont peut-être venus en bateau.
Et qu'est-ce qui va se passer après? Ça va se terminer comment, cette histoire?
Ça va bien se terminer. Ils vont se rhabiller, ils vont repartir. C'est pas une partie carrée. Allez.
Tu as des habits, tu as des cerises. Je vois du pain là. Tu as un bateau qui brille là. Puis je vois le ciel là. Et puis je vois là-bas la montagne. Puis je vois une dame assise sur les fesses. Puis elle est assise sur un autre habit, sur son pantalon. Et puis elle est à côté de son copain. Puis en face il y a son mari. Puis ils se regardent.
qui se regarde ?
Les deux monsieur. Je vois qu'un monsieur regarde le monsieur, puis un autre regarde par là-bas. Puis je vois plus rien. Je vois plus rien.
Mots d'un enfant devant le déjeuner sur l'herbe de Manet au musée d'Orsay à Paris. Déjeuner sur l'herbe qui suscite toujours des commentaires, comme beaucoup de peintures, toujours, heureusement. Et tant qu'on parle, les peintures existent. C'est ça la légende de l'image. Et sur cette image, beaucoup de légendes. Un certain Claretti déclarait, lorsque cette peinture a été présentée, « Qu'est-ce que cet odalisque au ventre jaune, ignoble modèle ramassé je ne sais où ?» Scandale à l'époque de cette peinture. Les scandales en peinture à l'époque étaient fréquents, on adorait ça. Et Manet avait dit, il faut que je fasse un nu, je vais leur en faire un dans la transparence de l'atmosphère, avec des personnes comme celles que nous voyons là-bas. C'est-à-dire, pas oublier que Manet était pote avec Baudelaire, mais aussi avec Zola, et qu'il était très, pas du tout impressionniste, pré-impressionniste. Et qu'il était très attiré par la réalité, les choses telles qu'elles apparaissent, telles qu'elles sont, les femmes telles qu'on voudrait qu'elles soient ou telles qu'elles sont. Il était exactement entre les deux, puisqu'il s'est inspiré de figures de Raphaël, et il est très imbu des postures des postures, c'est ça, on peut dire ça, ou des poses, enfin, de la peinture classique. Ça, c'est ce que je vous dis là, c'est moi qui suis en train de parler de cette peinture, alors que le but, il est de donner la parole à ceux qui se baladent au Quai d'Orsay et qui regardent, qui n'osent pas toujours parler, mais qui là, pour nous, pour vous, ont osé.
Au premier plan, donc, une femme nue, deux hommes habillés, les restes du pique-nique, sur la gauche, en bas à gauche du tableau, au premier plan. À l'arrière-plan, une femme qui est en train de se baigner dans une petite rivière, il y a un canot à droite. Et à l'arrière-plan, une profondeur de champ assez vaste, de champ, justement, de nature. Et puis, sur les bords et en hauteur du tableau, une forêt, vu des arbres assez, assez vieux. Et puis, les deux femmes, elles, se sont prêtées au bain, pas les hommes, manifestement, qui, eux, sont habillés en tenue de ville, par contre. Hein, ouais. Alors, il y a un homme à droite, sur le plan droit du tableau, qui est, lui, en position un peu allongée, comme sur un divan, à même le sol, sur le feuillage. Les jambes sont sur de l'herbe. Le bras gauche est sur un petit promontre, un petit talus, qui lui permet d'avoir une sorte d'accoudoir et de tenir une pose très élégante, avec le bras droit un peu tendu, qui est lié à la conversation. Et lui, son visage est totalement de profil, il est coiffé, avec une petite coiffure qui n'est pas banal. Et il pointe, je pense que sa main accompagne sa phrase, c'est-à-dire qu'il est dans une démonstration, il est en train de discourir, ce que je disais tout à l'heure, le côté un peu philosophique des choses, ou poétique, hein, donc c'est intellectuel. Le personnage, le deuxième homme, lui, derrière la femme nue, et semble regarder beaucoup plus dans le vide, d'ailleurs il ne regarde pas son interlocuteur. On le voit moins, avec son pantalon blanc, et une sorte de manteau un peu fermé, et puis la cravate surtout. Mais... en fait, aucun ne se regarde. Après, il y a un jeu de regard entre la femme qui regarde le peintre, entre guillemets, l'homme qui regarde qui fuit vers la droite, premier plan à droite, et puis celui qui parle, qui regarde celui dont le visage, dans le regard s'enfuit. Et puis la femme qui est à l'arrière-plan, qui ne la regarde pas, qui est autonome, indépendante. Sexuellement, il n'y a rien non plus. C'est-à-dire qu'il y a une apparence de nudité. Mais elle est de profil, en même temps, elle est nue, complètement nue, mais en même temps, on ne voit rien de sexuel, je dirais. Pour l'époque, c'est beaucoup, mais pour aujourd'hui, c'est déjà très pudique. On voit son épaule, le profil du torse, le côté d'un sein, le côté de la cuisse, enfin de la jambe entière. Et elle est assise sur un vêtement, peut-être bien, sur sa robe elle-même, tout simplement. Elle ne porte aucun bijou, alors que la femme qui est à l'arrière-plan a une sorte de chemise, quand même, de combinaison. Elle ne se baille pas complètement nue. Celle-là, elle est... Alors on peut penser qu'elle se sèche, peut-être qu'elle sort du bain. Tout simplement.
Mais sans plus, c'est une femme d'âge mûr, enfin d'une 30-40 ans pourrait peut-être donner, trentaine, oui, bonne trentaine d'années. Les hommes aussi, ils ne sont pas des jeunes hommes, c'est plutôt une quarantaine d'années. Et bon, il y a la barbe, c'est facile de leur donner un âge. Ce qu'ils vont faire, j'en sais rien. Il y a le canot, ils sont venus en canot, c'est sûr. Ils ont abordé là-bas. Donc on suppose qu'ils ont fait une balade en le canotier, la balade traditionnelle sur, la petite rivière, et qu'ils se sont posés, effectivement, pour prendre un petit bain. Mais je crois qu'en fait, il ne faut pas y voir grand-chose de plus.
Moi, ce que je vois aussi au milieu, c'est carrément un triangle. C'est-à-dire,
oui, oui.
On dit
après,
que
c'est au niveau de la composition. Oui.
On dit que ce tableau s'appelait la partie carrée, enfin, qu'il s'agit d'une partie carrée. Mais moi, ce que je remarque, c'est que la femme nue, l'homme habillé et l'autre femme à moitié dévêtue sont sur une même ligne et que ça forme un triangle avec.
Là, on est au niveau de la composition et de la géométrie de la composition.
Oui, avec.
Une sorte de pyramide. Pour moi, il y a même un triangle dans les trois personnages. Les quatre personnages sont dans un triangle qui est à l'intérieur du tableau. Alors là, après, on est effectivement dans les problème de composition. Si on prend la diagonale gauche-droite de haut en bas, le personnage qui est donc celui sur lequel notre œil se termine, c'est celui qui est en train de parler, celui qui est en train de discourir. L'important, c'est de donner là, c'est lui qui parle, les autres se taisent, ils ont la bouche fermée. Lui, on soupçonne qu'il a la bouche ouverte, ce qui n'est pas évident avec la barbe, on ne le voit pas vraiment très bien, mais on peut le deviner vu le geste. Il est en train de. Il y a une action. C'est-à-dire que ça arrête une. Il y a un petit côté photographique, c'est-à-dire qu'on arrête une pause aussi, ce qui pour la peinture de l'époque n'était pas. Je pense extrêmement banal non plus, mais peut-être l'influence de la photographie, on essaye de saisir l'instantané, ce qui n'est pas le cas des autres personnages qui posent. Là, il y a une pose classique, là, il y a un instantané qui est plus photographique pour le personnage de droite. Donc, deux notions de durée différentes. Voilà.
Vous posez une question sur ce tableau ?
Est-ce que je dois en poser une ? La question qu'on peut se poser, c'est de savoir ce que le peintre a voulu faire naître comme fantasme, peut-être, ou comme provocation pour l'époque. Donc c'est plus au niveau de l'interprétation de civilisation pour le 19e. Et puis on peut aussi poser le regard que porte l'observateur du 20e siècle sur un tableau comme celui-là. Et je dirais qu'il a forcément perdu sa provocation par l'évolution des mœurs. Mais est-ce qu'on doit se poser une question ? Oui, que vont-ils faire après ? Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu ça. Bon, je pense qu'ils vont reprendre le canot, tout simplement. Contrairement à ce qu'on peut éventuellement. C'est pas une partie carrée au sens où vous parliez tout à l'heure de tableau carré là. C'est trop bourgeois, trop noble, peut-être trop cérémonieux justement.
Il n'y a pas de quoi. C'est ce qu'on appelle en Angleterre un pique-nique, mais c'est pas un grand pique-nique. Ce n'est pas. C'est presque rien. Il n'y a pas de vin, de. Et ce n'est pas à manger. C'est à peindre et pas à manger. Nature morte, c'est comme nature morte, c'est pas comme un pique-nique, pas du tout. Je vois un oiseau qui vole, c'est très rare, c'est un instant, comme un photographe, parce que souvent, les oiseaux, ils sont assis sur les arbres, mais ici, c'est un peu bizarre, je crois. Je ne sais pas.
Et qu'est-ce que vous voyez d'autre alors ?
Les deux jeunes hommes et la jeune fille. La jeune fille en déshabit, bien sûr. Pour épater les bourgeois, la bourgeoisie. Elle vient de nous voir. Les jeunes hommes ne savent pas que nous sommes ici.
Ce canard muet fait dire, cette peinture de Manet, Le déjeuner sur l'herbe, fait parler depuis très longtemps, comme beaucoup d'autres œuvres, chefs-d'œuvre accrochés dans nos six visités musées. Et ça va des propos de ce visiteur qui dissèque doctement, comme dans les cours, et le cours de l'imagination débridée d'une étrangère qui se promène ici. Et alors, chacun voit ce qu'il a envie de voir, ce qu'il est capable de voir. Évidemment que ce regard, ces préoccupations, cette façon dont l'œil se promène, cet œil qui pense, après, à la suite de la main de l'artiste qui ne pensait pas nécessairement. Picasso a assez dit et redit à quel point il fallait trouver un chemin qui passe directement de l'œil à la main sans que le cerveau n'intervienne. Alors, à partir de là, on peut prêter au peintre bien des intentions, récupérer n'importe quel fragment de ses propos pour y voir des choses qu'il n'y a pas mis, des intentions qu'il n'a pas eues, mais beaucoup d'autres choses que sans le savoir, bien évidemment, il a posé devant nous, il a assemblé dans un élan inspiré. Parce qu'il s'agit bel et bien d'inspiration de l'artiste, toujours vivant grâce à l'inspiration des regards portés sur ce déjeuner sur l'herbe.
Manet a peint ce tableau dans son atelier. Manet donnera toujours une grande importance aux figures. Manet emploie toujours les gris et toute la gamme des gris, du blanc au noir. Et regardez les ombres des arbres. Elles sont de quelle couleur, ces ombres? Oui, elles sont de quelle couleur? Oui, elles sont noires, ou presque noires, parce qu'on a dit qu'on disait gris très foncé. Et en fait, Manet va être un peintre qui va faire partie de ce qu'on appelle la nouvelle peinture, mais il n'est pas, c'est un peu tôt encore, mais il ne sera pas, même après, impressionniste.
Je vois une femme qui se baigne, hein, enfin qui se trempe les pieds dans l'eau, à l'arrière-plan, donc un étang, et puis ça va doucement jusqu'à l'horizon, avec des tons extrêmement fondus, extrêmement doux. Au point de vue feuillage, le feuillage aussi est très doux. Il y a un éclairage, curieusement, qui semble venir de droite, plutôt, parce que, enfin, qui éclaire le côté droit, alors que la femme était très éclairée devant. Bon, alors on peut y avoir un jeu sur le feuillage, là. Par contre, le côté gauche, vous voyez, la mare est beaucoup plus sombre. Et donc, il y a cette tache jaune qui attire le regard sur la droite, jaune-brun un peu, qui n'est pas très vive, mais qui attire le regard et qui fait un rappel avec, je pense, le feuillage de gauche.
Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a à côté d'elle, à gauche? Non, mais il faut regarder dans la nature un petit peu. Bon, alors...
C'est un déjeuner sur l'herbe, ça. Mais ils n'ont même pas mangé. Vous voyez, par exemple, des fruits. Hein. D'abord, c'est tout, alors ça fait un peu juste. Et puis surtout, ça n'a pas été entamé. Donc, c'est un faux déjeuner sur l'herbe. C'est pas... Sinon, il y aurait des pâtés, il y aurait... Enfin, je ne sais pas, à l'époque, il y aurait une bouteille de vin, un pâté. Donc, c'est plus des nourritures symboliques que des nourritures réelles, je pense. Dans ce sens-là. Que je le verrai, hein. Mais bon, c'est la peinture, c'est personnel, hein.
Si vous regardez les fruits qui sont là, vous avez par exemple des cerises et des figues. À l'époque, il n'y avait pas de réfrigérateur, encore moins de congélateur. Et les cerises mûrissent en juin, juillet. Et les figues, à la fin de l'été. Est-ce qu'on peut les avoir en même temps? Est-ce que le peintre a pu les voir en même temps? Il a pu les voir en même temps, le peintre? Non, aujourd'hui évidemment avec la congélation on peut tout faire. Bon, mais à l'époque non. Et ce qui montre bien que c'est aussi, il y a une part d'imagination très grande, aussi pour des détails comme ça. Ça le confirme.
C'est certainement des rapins, hein. C'est l'impression qu'ils donnent un peu. Hein.
Des quoi?
Des peintres. Ils me paraissent pas très élégamment vêtus. Mais ils sont donc, c'est sombre, ils sont vêtus de façon sombre, tous les deux, hein, par rapport à la femme qui est, quoique lui a un pantalon clair, mais enfin on le voit très très peu. Hein. On dirait même la blouse, un peu une blouse plutôt qu'une veste, enfin je sais pas si je vois bien, mais celui de droite paraît avoir la blouse de peintre, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est peut-être un rapin, enfin un peintre de l'époque, quoi, simplement.
Ceci, c'est la faluche que portaient les étudiants à l'époque. En plus, le peintre a fait poser son frère et son beau-frère, donc on pouvait les reconnaître.
Et puis cette femme nue, et c'est l'étonnement, et ça intrigue, on se dit, mais enfin, que peut-il se passer?
Ce n'est pas un nu, c'est quelqu'un de dévêtu. Alors autant la nudité dans la peinture et dans l'art était acceptée depuis toujours, mais il y avait une distance qui se créait parce que c'était l'histoire, parce que c'était idéalisé, parce que c'était héroïque, autant là, c'est quelqu'un... de 1863, même si Manet dit « Oh, je ne vois pas pourquoi vous êtes choqué, parce que tout le monde va être choqué quand ce tableau va être présenté », Manet dit « Je ne vois pas pourquoi, parce que je me suis inspiré d'une peinture d'un grand maître de la Renaissance italienne ». Et en plus, il s'est inspiré d'une peinture d'histoire. Or, je vous ai dit tout à l'heure que le peintre le plus important était un peintre d'histoire.
Savant. Savant et passionnant, il faut bien dire. Mais les deux regards sont aussi intéressants et passionnants l'un que l'autre. On continue à méditer, à regarder, à scruter le déjeuner sur l'herbe.
Bien. Alors, est-ce que vous voulez poser d'autres questions ?
Moi, j'aurais une question à vous poser. Qu'est-ce que vous voyez ?
Deux hommes bien habillés, assis par terre, une très jolie femme nue, et un tsunami qui se baigne derrière ou qui ramasse quelque chose par terre, je ne suis pas sûr, et qu'ils viennent de déjeuner avec tous les fruits, du pain et tout ça qui reste par terre. Et tout ça très bien organisé dans la forêt, c'est ça que je vois. Et puis l'expression de cette femme nue, avec une toute petite sourire, avec ses yeux très brillants, qui sont en train de regarder quelque chose.
La première peinture féministe.
Le déjeuner sur l'herbe, c'est la première peinture féministe?
Oui. Parce que la femme est indépendante, confiance.
La dame qui est nue semble indépendante et confiante.
Oui, oui. Les hommes, intellectuels, philosophie. Et la femme est so independent and above the discussion.
Les deux hommes sont en pleine discussion, mais la femme est là, indépendante et au-dessus de cette discussion.
Oui, 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 oui. Mystérieux. What happened? Quel passé avant? Pourquoi des hommes sont discussion, intellectual, and la femme? It's mysterious.
C'est mystérieux, on ne sait pas pourquoi. Ce qui s'est passé avant, ni de quelle discussion intellectuelle il s'agit, alors que la femme est là, nue à côté.
Yes.
Avant, ça on ne sait pas. On ne sait pas si les deux hommes ont fait l'amour avec cette femme. On ne sait pas si ils sont comme ça parce que c'est la vie. Enfin, c'est leur manière de se communiquer entre eux.
I don't think they made love. I think she just independently said, it's a beautiful day, I'm taking my clothes off, I'm going for a swim, I don't know.
Vous imaginez que la femme, ils n'ont pas vraiment fait l'amour ensemble avant, mais elle se serait mise nue d'elle-même en disant, c'est un très beau jour, je vais me mettre nue.
Oui, 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 c'est ça, c'est ça.
Intéressant hein, comment les femmes voient la femme, comment la femme à l'instant, il y a quelques instants, contemplait vraiment cette autre femme et comment celle-ci voit dans la figure le nu, alors le dévêtu, bon, si on veut, de déjeuner sur l'herbe, alors voit quelque chose de féministe, là, dans la mesure où cette femme a l'air tout à fait indépendante, above, des hommes qui sont en train de philosopher, peut-on se dire, passionner la conversation. On pourrait voir le contraire, sorte de bestiaux à leur disposition, la nue, dont on fera quelque chose tout à l'heure. Ces deux regards totalement différent, et c'est toute la, c'est peut-être là-dedans que réside essentiellement la beauté toujours féconde du geste, de l'un des gestes de Manet.
Alors on voit un monsieur habillé en costume, enfin il y en a deux, il y a une dame, enfin ils font une dame nue, ils font un pique-nique. Il y a une autre dame qui cueille de l'herbe.
Ils sont dans de l'herbe.
Enfin, ils sont dans une forêt. La dame nue, elle s'est déshabillée, puis elle avait un panier de fruits.
Avec des cerises.
Mmh. Et il y a un monsieur, on dirait qu'il est russe, parce qu'il a un chapeau comme les Russes. C'est tout.
Qui est-ce qui l'a déshabillée, la dame?
Je pense qu'elle s'est déshabillée toute seule, à mon avis. Bah oui, elle a quelque chose sur elle encore, qu'on dirait qu'elle est en train d'enlever, mais
ça se voit même, on a l'impression que vraiment elle s'est déshabillée toute seule. On n'a pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui l'ait déshabillée.
Bah en fait, si ses habits sont à côté, si ça aurait été les messieurs, ça aurait été sûrement à côté des messieurs.
Comme les habits sont sous ses fesses, il peut pas le mettre sous elle.
On sait pas, mais on devine, à notre avis. Parce qu'elle a, un moment sur sa jambe, on voit, elle a encore un bout de tissu. Et si c'était quelqu'un d'autre qui l'aurait déshabillé, il l'aurait complètement déshabillé. Tandis que là, c'est simplement le corps. Et puis, mais il reste un bout de tissu sur sa jambe. Donc, on a plus l'impression que c'est elle qui s'est déshabillée toute seule.
Puis peut-être qu'elle voulait se baigner, parce que comme il y a une rivière juste à côté.
Quoi qu'on dirait qu'elle a pris un bain, parce qu'on dirait qu'elle a un tissu, comme Stéphanie a dit, un tissu peut-être pour s'essuyer. Peut-être parce qu'il fait chaud, enfin je sais pas pourquoi elle se déshabille.
Bah s'il faisait chaud, tout le monde se sera déshabillé.
Il y a un flacon à côté, peut-être qu'elle bronze. Elle s'est mis du produit et elle bronze.
Et c'est qui ces gens?
Sûrement des personnes riches, parce que à voir les habits qu'ils ont, ils ont des habits noirs, des costumes, ils ont une cravate noire. Il y a un monsieur qui a un chapeau russe, on pourrait dire, il a une canne. Par contre, l'autre, il a un espèce, pas une cravate, mais quelque chose comme une cravate qui est rose.
Enfin, ils sont habillés en costume du dimanche, comme autrefois. Dans le temps, pas tous les gens étaient riches, c'est pour ça, donc. Là, il y en a qui peuvent tout s'offrir, d'autres non.
Il faut qu'on parte.
Au revoir.
Salut, au revoir.
C'était une nouvelle diffusion du reportage d'Elena Namias autour du célèbre tableau d'Édouard Manet, Déjeuner sur l'herbe, à l'occasion de l'exposition Manet, inventeur du moderne, une exposition qui se déroule actuellement au musée d'Orsay et ce jusqu'au 3 juillet prochain. Vous retrouverez bien évidemment toutes les informations nécessaires sur le site de France Inter, franceinter.com, rubrique émission, là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Kamal Salifou et Aline Carmois, réalisation Franck Aderer, assisté d'Agnès Le Bot, et c'est Marina Touyez qui attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37. Demain vendredi 8 avril, vous retrouvez Daniel Mermet en direct de Tokyo pour un là-bas si j'y suis spécial sur le Japon et d'autre part. Toujours demain, mais le soir et à Paris, se tiendra une réunion de soutien pour sauver le restaurant La Rôtisserie Sainte-Marthe. La Rôtisserie est un lieu alternatif autogéré, aujourd'hui menacé d'expulsion. Alors si vous voulez les soutenir, rendez-vous à l'espace Château Lindon à partir de 19h30, métro Louis Blanc ou Stalingrad.
Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's alright. It's alright. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's alright. It's
C'était une reprise de Here Comes the Sun par Nina Simone. Après les informations, on retrouve Frédéric Lodéon et son carrefour de l'Odéon.
Demain, à partir de 6h, France Inter avec le Japon. Un mois après le séisme et le tsunami qui ont endeuillé le pays, matinale spéciale en direct de Tokyo et tout au long de la journée, 12 heures de programme et d'informations consacrées à la situation au Japon. France Inter avec le Japon. Une journée spéciale à suivre demain à partir de 6h.
Toutes les infos sur franceinter.com.
J'ai peur!
T'en fais pas avec la matmute, t'as l'assistance!
Même si on tombe en panne?
Oui, même si on tombe en panne.
L'assistance, c'est compris dans mon contrat matmute!
Ça, c'est sûr, la matmute, elle assure.
Prestations, images et IE dans les conditions et limites du contrat.
Quelle bouillotte!
Pas bouillotte! Trouillotte!
Et vous êtes bien sur France Inter, il est 16h passées de 20 secondes. Les informations, Angélique Bouin.
Nicolas Sarkozy est en déplacement dans le Puy-de-Dôme. Le chef de l'État a visité notamment une usine d'aluminium à Issoire. Il a aussi participé à une table ronde avec des industriels et annoncé dans ce cadre un renforcement du contrôle des allocations chômage. Nous allons être plus exigeants avec ceux qui en bénéficient et qui refusent des offres d'emploi disponibles, a expliqué le président de la République. Pour lui, c'est un problème de justice sociale envers ceux qui travaillent dur, je cite. Nicolas Sarkozy a également confirmé que le gouvernement réfléchissait à un dispositif de partage des profits. Les entreprises qui distribuent des dividendes à leurs actionnaires doivent aussi, a-t-il dit, augmenter les salaires de leurs employés. Claude Guéant veut réduire l'immigration légale en France. Le ministre de l'Intérieur l'annonce dans le Figaro magazine. Certains socialistes ont dénoncé depuis ce matin une provocation et un non-sens économique. Le Parti communiste français réagit également dans un communiqué. Réduire l'immigration légale conduira automatiquement à augmenter l'immigration clandestine. La machine à produire des sans-papiers est en route, écrivent ses responsables. Dans les Yvelines, une chasse à l'homme est en cours pour tenter de retrouver le motard qui a violemment percuté un gendarme ce matin lors d'un contrôle routier. Un hélicoptère et des équipes cynophiles sont actuellement mobilisés. L'homme qui a forcé le contrôle s'est enfui à pied après l'accident. Il conduisait une moto volée. Le gendarme, très grièvement blessé, a été transporté à l'hôpital militaire de Percy. Son pronostic vital est toujours engagé. La spirale de la violence a repris en Israël. Un obus de mortier tiré depuis la bande de Gaza a touché tout à l'heure un bus scolaire côté israélien. Il y a deux blessés dont l'un est dans un état grave selon la police. Il s'agit d'un adolescent. Peu de temps après, on a appris qu'un Palestinien avait été tué également aujourd'hui. Plusieurs autres blessés par des tirs de chars israéliens et cela dans l'est de la ville de Gaza. La terre a tremblé au Mexique. Un séisme de 6,5 sur l'échelle de Richter qui a frappé la province de Veracruz dans le sud-est. Pour l'instant, la protection civile du pays ne signale aucun dégât ni victime. En Libye, des milliers de civils, mais aussi des rebelles, fuient en ce moment la ville d'Ajdabiya, ville de l'ouest du pays. Ils remontent actuellement vers le nord, vers Benghazi, fief des insurgés. Un exode qui fait suite à une rumeur qui s'est propagée tout à l'heure dans la ville, rumeur faisant état d'une avancée des troupes loyalistes du colonel Kadhafi. Et puis en Syrie, le président Bachar el-Assad tente toujours de calmer la contestation contre son régime. Il a fait un geste aujourd'hui, il a accordé la citoyenneté syrienne à plus de 250 000 Kurdes du nord-est de son pays.
Tous les jours.
Alors racontons l'histoire.
À partir de 11h.
Elle était bourrée, mais bourrée.
Une vraie douanière.
Du roi.
Stéphane Bern.
Et là, elle me dit.
Here you come here, you motherfucker.
Demain, retrouvez le fou du roi en direct d'Athènes. Stéphane Bern et ses chroniqueurs recevront Hélène Arveiler, Olivier Orlet, Aris Alexiou et Yorgos Arkimandritis.
God save the Queen, enlève ta gaine, mamie pudding.
Le fou du roi.
Eh ben oui, oui, oui.
Tous les jours sur France Inter, à partir de 11h.
France Inter, partenaire de l'exposition Madame Gray, la couture à l'œuvre. Découvrez cette grande dame de la mode qui voulait être sculpteur, révolutionne à la coupe et de robes plissées en drapé à l'antique, sculpte à l'étoffe des rêves des années 30 aux années 80. Retrouvez Madame Gray jusqu'au 24 juillet au Musée Bourdelle à Paris dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com. France Inter. France Inter.
La différence.
Restez à notre écoute, c'est l'heure de retrouver Frédéric Lodéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Angélique. Carrefour de l'Odéon.
Bonjour à tous, j'ai le très grand plaisir, le très grand honneur de recevoir aujourd'hui Emmanuel Krivine, chef d'orchestre. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Alors vous êtes ici parce que un coffret vient de paraître chez Naïve, les 9 symphonies de Beethoven avec l'orchestre de la Chambre Philharmonique. On va en parler parce que ce sont des instruments d'époque, des instruments anciens, et puis montés à l'ancienne, c'est encore une autre chose, c'est-à-dire avec les cordes comme autrefois, parce que ça compte aussi, c'est pas seulement le bois de l'époque, la facture de l'époque, c'est pas seulement le corps du violon, mais aussi ce qu'on met dessus, hein, les cordes et le chevalet par exemple. Et donc vous dirigez cet orchestre, de même que l'orchestre du Luxembourg, qui lui est un orchestre considéré comme moderne, classique, enfin bon, oui. Comme on fait partout, on va dire. Standard, on va pas dire standard, parce que standard c'est
un peu péjoratif.
Ce serait un peu péjoratif, ce qui n'est pas du tout le cas. De toute façon, on peut pas jouer standard sous votre baguette, c'est pas possible.
Donc ça dépend.
Vous avez une formidable personnalité qui s'entend tout de suite à mon goût, parce que j'ai entendu évidemment ce coffret, j'ai écouté les disques et toutes les symphonies, et il y a une énergie, ce que je sens tout de suite, c'est qu'il y a une force vitale, il y a un rythme implacable quand il le faut, enfin il y a quelque chose d'extraordinairement moderne dans votre approche des symphonies de Beethoven, et d'ailleurs ça va avec ce qui va se passer, puisque la Cité de la Musique du 14 au 17 avril, la Cité de la Musique à Paris, vous allez diriger ces symphonies, et le titre de la série c'est Beethoven Visionnaire. Alors parce que voilà, pour vous, Beethoven c'est un homme d'aujourd'hui, et même peut-être de demain, je sais pas, il y a quelque chose qui a choqué en son temps, et qui peut-être encore, dans certaines interprétations, choquer aujourd'hui.
C'est le premier. On peut dire que c'est l'ère moderne déjà, Beethoven. Il a cassé tous les codes. Enfin, c'est pas pour rien que c'est un tel héros, parce que c'est un visionnaire, c'est un humaniste, c'est un gars qui a ouvert toute la culture moderne, quoi, la musique moderne. Il a ouvert toutes les choses qu'ont exploité après les Mahler, les Wagner, tous ces gens-là. C'est lui qui est, c'est le pionnier, quoi.
Sorti du cadre, il a posé la perruque.
Du cadre classique.
Voilà. Oui. Après Haydn et après Mozart. Oui, tiens, voilà un exemple, justement, le menuet de la première symphonie. Il y a des gens qui ont dit que cette première symphonie était une musique militaire qui provoquait plutôt l'étonnement que l'émotion. Enfin bon, ça c'est les critiques de l'époque. Et c'est vrai que les instruments avant ont pas mal de présence. Mais surtout, ce menuet, ce serait, d'après les musicologues, le premier scherzo. C'est-à-dire, on a tellement accéléré ce rythme à 3 temps. Cette mesure à 3 temps, que c'est devenu une mesure qu'on bat à un seul temps, donc voilà le modernisme, et puis c'est devenu aussi ce scherzo qui va servir beaucoup dans les œuvres à venir.